c'est l'heure du journal avec vous, Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Hervé, bonjour à toutes et à tous. Plus question d'accueillir des imams détachés envoyés par d'autres pays comme la Turquie et l'Algérie. C'est l'une des mesures détaillées hier par Emmanuel Macron pour lutter contre le communautarisme et le séparatisme islamiste. Discours présidentiel depuis Bourdsviller, un quartier populaire de Mulhouse. Reportage dans un instant. Et puis c'est la première fois qu'un président de la République dit clairement qu'il faut rompre avec l'islam consulaire, estime l'essayiste Hakim El-Karaoui. Vous l'entendrez dans ce journal.
L'exécutif se félicite d'aller plus loin que les précédents gouvernements dans un autre dossier. Le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Fessenheim sera définitivement arrêté samedi. Décret publié ce matin au journal officiel.
À la une encore, la mise en examen de Piotr Pawlinski et sa compagne Alexandra de Tadeo au cœur de l'affaire Griveaux. Le bilan du coronavirus qui dépasse les 2000 morts en Chine. Haro sur le milliardaire Michael Bloomberg attendu au tournant ce soir aux États-Unis pour son premier débat à démocrate. Et puis nous irons à Pompéi à la fin de ce journal à la découverte d'une maison restaurée, celle des Amants, la seule sur le site antique qui a conservé son péristyle et son étage supérieur.
Et puis dans la QDJ, la question du jour, les résultats en hausse du contrôle fiscal. Nous serons en compagnie de la porte-parole du syndicat solidaire Finances Publiques.
Ce serait une faute profonde de penser que c'est un plan contre l'islam. Emmanuel Macron a développé sa vision du séparatisme islamiste hier à Mulhouse, dans le quartier populaire de Bourdsviller, l'un des 15 territoires faisant l'objet d'une lutte coordonnée contre le repli islamique. D'entrée de jeu, le chef de l'État a tenu à préciser qu'il n'était pas là pour stigmatiser une ville ou un quartier, non. Emmanuel Macron veut notamment lutter contre les influences étrangères sur l'islam en France, Rosalie Lafarge.
Emmanuel Macron dit d'abord stop aux ELCO, ces enseignements en langue et culture d'origine, des cours facultatifs dispensés à l'école depuis la fin des années 70 par des enseignants désignés par les gouvernements d'autres pays, l'Algérie, la Turquie, l'Italie, la Serbie. L'idée étant de permettre aux enfants d'immigrés de maintenir le lien avec leur pays d'origine.
Il y en a 80 000 élèves qui suivent ces enseignements.
Mais ces enseignements soulèvent pas mal de questions.
Le problème que nous avons aujourd'hui avec ce dispositif, c'est que nous avons de plus en plus d'enseignants qui ne parlent pas le français, que nous avons de plus en plus d'enseignants sur lesquels l'éducation nationale n'a aucun regard. Et nous n'avons pas non plus le contrôle sur les programmes qu'ils enseignent. Ce qui est un problème.
Ce problème met mal à l'aise le président. Il veut remplacer ses ELCO par un autre dispositif contrôlé. Tous les pays concernés ont accepté, tous sauf la Turquie. La Turquie qui grincerait aussi des dents après l'annonce de la fin progressive des imams détachés.
Nous importons chaque année des imams et des psalmodieurs qui sont nommés, désignés, formés par d'autres gouvernements. Nous avons cette relation principalement avec trois pays. L'Algérie, le Maroc et la Turquie. Et avec des dérives que nous avons pu observer. Le dialogue qui a été conduit sur ce sujet avec l'Algérie et le Maroc a été exemplaire. Et donc nous allons progressivement sortir de ce dispositif. Pour ce faire, il faut évidemment que nous ayons des imams qui soient formés en France et une structuration, ce qu'on appelle l'imamat.
Là encore, Ankara semble difficile à convaincre. Et si Emmanuel Macron assure qu'il ne veut froisser personne, il souligne aussi qu'il ne sera complaisant avec personne.
Et pour Hakim El-Karaoui, essayiste et auteur pour l'Institut Montaigne de 3 rapports sur l'islam, dont la fabrique de l'islamisme, 600 pages remises en septembre 2018 à Emmanuel Macron. Pour Hakim El-Karaoui, donc, de solides bases contre le communautarisme ont été posées à Mulhouse, même si le travail ne fait que commencer.
Je crois que c'est la première fois qu'un président de la République dit aussi clairement, par exemple, qu'il faut rompre avec l'islam consulaire. François Hollande avait signé des grands accords pour former des imams au Maroc. Nicolas Sarkozy avait créé le CFCM avec le Maroc, l'Algérie et la Turquie. Là, on est à un changement d'approche et de philosophie très profond. Après, il faut avoir une solution pour le remplacer. Ça, c'est l'islam de France. Il demande tout un travail théologique, tout un système financier. Il demande tout un travail de formation. Et puis, en parallèle, il faut être là où l'islam institutionnel n'est pas, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pas seulement dans les mosquées, mais dans les bars d'immeubles. C'est là où il faut mettre des gens. Et ça, c'est pas l'islam officiel du CFCM, c'est pas l'État qui peut le faire. D'une certaine manière, ce sont les musulmans. Il faut absolument que les autorités publiques leur parlent, en leur disant « nous avons besoin de vous ». Peut-être que c'est ça qui manquait, de mon point de vue, dans le discours du président.
Hakim El-Karaoui, essayiste, il répondait à Delphine Evenou. Une première étape dans la stratégie énergétique de la France. C'est en ces termes que le gouvernement a salué la publication aujourd'hui au journal officiel du décret confirmant l'arrêt total et définitif des réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ce samedi à 2h30 du matin pour le réacteur numéro 1, le 30 juin pour le réacteur numéro 2. Les écologistes saluent ce geste, mais ils rappellent qu'il existe encore des dangers liés à la décontamination des piscines. Et le député Les Républicains du Haut-Rhin, Raphaël Schellenberger, s'inquiète lui pour l'emploi dans la région. Il serait 2000 à être menacé par la fermeture de Fessenheim, en comptant les emplois directs et indirects, salariés d'EDF, sous-traitants. On y revient dans le journal de 7h30. La nouvelle candidate LREM pour les municipales à Paris, Agnès Buzyn, accuse l'ex-marcheur Cédric Villani de poser un rapport de force dans le cadre d'un éventuel rapprochement de leur candidature avant le premier tour. Dans un entretien au Parisien, l'ancienne ministre de la Santé dit encore que son modèle à la mairie de Paris, c'est Bertrand Delanoë. Elle confirme également que le projet de déménagement de la gare de l'Est pour créer un grand parc n'est pas une priorité. C'était un projet de Benjamin Griveaux. Celui qui a choisi de jeter l'éponge à Paris après la diffusion de vidéos intimes pour lesquelles l'activiste russe Piotr Pravlinsky et sa compagne française Alexandre de Tadeo ont été mis en examen hier et placés sous contrôle judiciaire. Ils ont retrouvé la liberté hier soir. Retour sur cette double mise en examen avec Florence Turme.
Atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans accord de la personne d'images à caractère sexuel, Piotr Pavlinsky et sa compagne Alexandra de Tadeo ont été mis en examen pour les mêmes motifs et tous les deux laissés libres sous contrôle judiciaire, mais avec interdiction de se rencontrer. Le parquet avait requis le placement en détention provisoire de l'artiste russe, mais dans le cadre d'une autre affaire, moins retentissante sur un plan médiatique, mais aux conséquences judiciaires plus lourdes, une rixe survenue le soir du Nouvel An, dans un appartement parisien, l'artiste russe est soupçonné d'avoir porté des coups de couteau à deux invités. Dans ce dossier, il n'a pas été mis en examen, en tout cas pas encore. Il devra répondre à une nouvelle convocation de la justice dans les prochains jours. L'instruction de l'affaire Griveaux, elle, va s'attacher à déterminer les circonstances précises de mise en ligne des vidéos, de leur diffusion et des intentions de ceux qui y ont contribué, dans la mesure où plusieurs voix se sont déjà élevées pour dénoncer un complot politique. Alexandra de Tadeo a indiqué qu'elle était bien la destinataire de ces vidéos intimes. Elle conteste en revanche son implication dans leur diffusion.
France Culture, 7h07, la suite de votre journal Catherine Dutu et le bilan de l'épidémie de coronavirus qui a franchi ce matin la barre symbolique des 2000 morts.
2004 morts précisément en Chine continentale, mais l'OMS met en garde contre toute mesure disproportionnée, citant une étude montrant que plus de 80% des patients souffrent en fait d'une forme bénigne de la maladie. Un sommet Chine-Union européenne prévu fin mars à Pékin a tout de même été annulé selon des sources européennes. Et puis les passagers à bord du Diamond Princess, où plus de 540 cas de contamination au coronavirus ont été constatés. Ces passagers ont commencé à quitter le paquebot aujourd'hui après 14 jours de quarantaine au Japon. Big Brother à la chinoise ou simple moyen de paiement, la reconnaissance faciale divise et Bruxelles lancera aujourd'hui un grand débat sur l'intelligence artificielle, bien décidé à prévenir les dérapages. Pour réguler un secteur en pleine croissance et largement dominé par les États-Unis et la Chine, la Commission européenne va présenter un livre blanc avec des piste d'action. Aux États-Unis, Michael Bloomberg participera ce soir à son premier débat dans le cadre de la primaire démocrate en vue de la présidentielle de novembre prochain. Le milliardaire qui dépense sans compter pour sa campagne a fait un bond dans les sondages. Il aura donc le droit de se mesurer à ses concurrents dans le Nevada, deux jours avant un caucus auquel il ne prendra pourtant pas part. Et face notamment à Bernie Sanders, son adversaire socialiste déclaré, l'ancien maire de New York risque de prendre des coups, Loïc Lory.
Michael Bloomberg parviendra-t-il à acheter l'investiture démocrate? L'homme d'affaires en tout cas est en train de se positionner à coups de 1 400 000, notamment en publicité depuis novembre. Résultat, ce bond dans un récent sondage national, le milliardaire y apparaît deuxième derrière Bernie Sanders. Le sénateur du Vermont l'attaquait dès hier soir.
C'est quelque chose dont je suis profondément convaincu. Vous avez, monsieur Bloomberg, tous les droits de vouloir devenir président des États-Unis. C'est un citoyen américain, mais je ne crois pas qu'il ait le droit d'acheter cette élection.
Le milliardaire face aux socialistes, Michael Bloomberg a fait de Bernie Sanders son adversaire numéro un. Voilà comment il se moquait du sénateur en 2016.
Il défend quelque chose qu'il appelle le socialisme démocrate. Et les jeunes, je ne les blâme pas, j'aimerais être jeune à nouveau. Mais les jeunes écoutent Bernie Sanders. Ils se disent, ouais, démocrate, c'est bien. Socialisme, ouais, c'est ce truc des réseaux sociaux.
Mais lors du débat, il n'aura pas que des adversaires sur sa gauche. Au centre, sur son terrain, les Biden, Buttigieg, Klobuchar devraient attaquer l'homme d'affaires sur sa campagne polémique ou les casseroles qu'il traîne. Ce soir à Las Vegas, ce ne sera pas un combat de boxe, mais cela pourrait bien y ressembler.
Loïc Laury à New York pour France Culture. Direction Pompéi à présent. Après 5 ans de travaux, le grand projet pour le site antique et ses 100 millions d'euros prend fin au mois de juin. Mais déjà, les visiteurs du monde entier peuvent découvrir le site en toute sécurité. Un site où des fouilles ont été effectuées sur les 2/3 des 66 hectares de Pompéi. Les visiteurs peuvent découvrir dès aujourd'hui 3 maisons consolidées et restaurées, notamment la Maison des Amants, le reportage à Pompéi de Bruce de Galzin.
Elle était fermée depuis 40 ans, depuis le tremblement de terre qui a secoué Pompéi. La Maison des Amants a sa propre histoire que Mattia Bondono, guide depuis plus de 20 ans, nous raconte le sourire aux lèvres.
C'était une maison joyeuse, peut-être où il y avait des rencontres. C'est ce que nous racontent les écritures sur les murs. Vous pouvez lire parfaitement que ces fameux amants étaient comme les abeilles. Ils passaient leur vie dans la douceur, dans le miel.
Autre particularité de cette maison, son état. C'est la seule à Pompéi qui a conservé son péristyle et son étage supérieur. Vittoria Cuttolo restaure la maison dans ses moindres détails.
Nous travaillons depuis une semaine sur ce cadre d'1 mètre sur 3 parce qu'il y avait beaucoup de couches et de substances différentes. Il faut y aller petit à petit, on ne peut pas tout enlever d'un coup et nous terminons à la main avec un bistouri.
Et nous découvrons ainsi la vie quotidienne des habitants de la Rome antique il y a 2000 ans. Une vie plus détachée qu'aujourd'hui selon le directeur du site archéologique de Pompéi, Massimo Osanna.
Pompéi, c'est l'amour parce que de l'Antiquité, l'amour n'était pas un tabou comme chez nous quelquefois. L'amour et le sexe, évidemment.
Et quelques objets sont exposés, un bracelet, une lanterne en bronze.
Bruce de Galzin à Pompéi pour France Culture. Un mot du temps de ce mercredi 19 février, ensoleillé dans la moitié nord du pays, près de la Méditerranée également, un peu plus de grisaille dans le reste de l'Hexagone. Au meilleur de la journée, il fera entre 7 et 13 degrés sur la moitié nord, ainsi qu'en Rhône-Alpes, compté de 10 à 18 partout ailleurs.